France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 19 décembre, soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Xavier Atto et Maïwenn Lejean à la technique. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Courage à ceux qui travaillent encore et à ceux qui sont déjà sur la route des vacances. Merci en tout cas de nous choisir pour démarrer ce week-end en beauté. Voici le menu à 7h45. Pascal Bertin, directeur du Festival Baroque de Pontoise et chef du département de musique ancienne du Conservatoire de Paris, partagera un choix musical avec nous. À 8h, nous nous préparons à chanter Noël avec Marc-Olivier Dupin. Nous irons ensuite à Montpellier pour un voyage dans la Lune avec Sophia Anastasio. À 8h30, nous recevrons Olivier Michel, directeur de la POP, incubateur artistique et citoyen, incubateur éco-responsable. Et puis à 8h50, direction Hollywood, Christophe Chassol nous parlera de Jerry Fielding, compositeur de musique de films sauvage et avant-gardiste. Mais pour commencer ce matin, un extrait du nouvel album du Quatuor Zaïd.
Thank you.
Premier mouvement de la 9e sonate de Beethoven. Beethoven dont nous fêtions l'anniversaire, les 250 ans cette semaine, ici avec sa sonate à Kreutzer, l'une de ses œuvres les plus connues que le Quatuor Zaïd et Bruno Delepeller nous proposaient dans cette transcription pour quintette à deux violoncelles, partition éditée, arrangement édité 4 ans après la mort de Beethoven, une façon de redécouvrir cette œuvre fabuleuse. Ce disque vient de paraître chez Nomad Music. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Pascal Bertin.
Bonjour Saskia Deville.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Festival Baroque de Pontoise et chef du département de musique ancienne du Conservatoire de Paris. Alors nous avions ce matin envie d'évoquer avec vous la création d'une page Facebook dont vous êtes l'initiateur. La culture s'offre, ou dois-je lire la culture souffre. Pascal Bertin, en quoi consiste cette initiative ?
Alors, en fait, c'est une idée qui est partie d'une routine matinale, comme tous les matins. Je regarde les réseaux sociaux en buvant mon café et je vois les CD proposés par mes contacts, chacun sur leur page. Et puis à un moment, je regarde mes mails, je vois des listes de cadeaux de ma famille, je vois qu'il y a des demandes de disques, de films, de places de spectacle. Je réalise que je suis aussi en retard pour mes achats de Noël. Et puis je lis la presse en ligne et je vois un papier sur Amir, chanteur de variété, qui avait fait l'Eurovision. Et puis qui a eu cette jolie idée, la culture s'offre, pour encourager ses fans en fait à offrir des disques et des places de cinéma ou de spectacle. Et puis bah, ces trois informations matinales ont donné cette idée de la culture souffre avec le U entre parenthèses. C'est l'idée de regrouper en un seul endroit toutes les offres de biens culturels proposées par les ensembles ou les solistes, et si possible en vente directe, pour permettre aux artistes de continuer à vivre de leur art et pas seulement d'être gouvernemental ou de chômage très très partiel. Ça nous permet aussi d'être moins dépendants du hasard de Facebook, du scrolling, de l'algorithme qui ne permet pas de tout voir, à moins de passer 10 heures par jour sur les réseaux sociaux, ce qu'il ne faut pas faire.
On est bien d'accord.
Voilà. Et puis, ensuite, j'ai demandé à une illustratrice que j'aime bien, Emma Bertin, de dessiner une couverture à cette page. Illustration assez symbolique, qui reprend des codes couleurs Noël. Le ruban du cadeau, c'est un rappel du ruban rouge et blanc que vous avez déjà vu sur des photos de profil, qui dit non essentiel, culture en danger. Et puis les lettres aussi sont dans des carrés qui rappellent les slogans des colleuses qu'on voit sur les murs de nos villes depuis quelques mois.
Alors, encouragez, oui, dites-nous tout. Allez-y, Pascal Bertin.
Ensuite, en fait, moi, j'ai juste invité mes amis de ma propre page Facebook, qui sont pas loin de 2000. Je les invite à s'approprier cette chose et puis à le partager pour le faire devenir plus grand. Le principe, c'est que chaque participant fait un post avec une proposition de bien culturel à vendre, qui un disque, qui un DVD, qui peut-être des places de spectacle ouvertes qu'on peut acheter pour le futur. Et finalement, chacun est responsable de son offre. Moi, j'ai juste créé un cadre et puis ensuite, on verra bien ce que ça deviendra, à quel point les artistes en empareront. C'est une idée de Noël, mais ça peut devenir aussi une vitrine, une grande vitrine finalement d'un tout petit marché, un marché de niche comme on dit, où on pourrait trouver des pépites qui échappent au grand réseau de distribution. Je trouve que ce qui est bien aussi dans cette présentation Facebook, c'est que c'est extrêmement égalitaire, parce que chaque annonce a la même taille, chaque photo de CD a la même taille. On peut pas s'acheter une publicité quatre fois plus grande que le concurrent, en fait. Voilà, et on trouve ce groupe Facebook en tapant dans le champ de recherche Facebook « La culture souffre ». Vous le trouvez assez vite. Pour l'instant, il y a beaucoup d'artistes dessus, mais je vous rappelle que les artistes sont aussi les premiers acheteurs, hein, finalement, de biens culturels. Mais grâce à vous, on espère étendre, en fait, la visibilité et que des curieux aillent voir si, par hasard, ils pourraient pas trouver leur bonheur.
Effectivement, pour faire de beaux cadeaux de Noël, parce qu'effectivement, avec la fermeture des salles, hein, pour le moment, une des seules sources de revenus des artistes, c'est cette vente, justement, directe de leur production, hein, comme vous l'expliquez sur cette page Facebook, La culture souffre, avec le U entre parenthèses. Je prends le dernier post qui a été écrit par Lauriane Corneille, pianiste. Voici un album piano solo Schumann paru le jour de la fermeture des écoles lors du premier confinement. À découvrir ici avec le lien direct vers le site de la pianiste. Il y en a évidemment énormément d'autres. Je vous invite chaleureusement, chers auditeurs, à aller faire un tour et aller piocher vos cadeaux de Noël sur cette page Facebook créée. Rapidement, Pascal Bertin, un petit mot tout de même. Prenons des nouvelles du Festival Baroque de Pontoise, dont vous êtes le directeur, festival qui se déroule d'octobre à juin. Comment dire, quel état des lieux dressez-vous aujourd'hui? Comment va le festival malgré la fermeture des lieux?
Alors le festival, bon, c'est aussi un autre moyen de soutenir le milieu culturel. Nous, on reste fidèle à la politique que nous suivons depuis le premier confinement, c'est-à-dire qu'on n'annule pas par peur d'annuler. On ne le fait qu'à la dernière minute, que quand il y a une injonction de le faire, et puis on essaie de trouver des possibilités de report dans une même saison, et si on annule et que nous sommes producteurs, ce qui n'est pas toujours le cas, dans ce cas-là, on paye les artistes l'intégralité de ce qui était dû. On a connu deux phases pour cet automne. On a eu beaucoup de chance, avouons-le, parce que notre partie festival en fin septembre, mi-octobre, on a simplement souffert de la jauge limitée des places, et en plus cette perte devrait être couverte par l'État via le Centre National de la Musique. On n'a rien annulé et le public nous a suivi, et on a notre concert de clôture dont on entendra un extrait ensuite. C'était le 17 octobre, le jour du commencement du couvre-feu. Donc finalement, la seule chose qu'on a eu à faire, c'est d'avancer ce concert qui était prévu le soir à 17h, un samedi, et on a perdu très peu de gens en chemin. Après, en novembre, évidemment, les choses ont été beaucoup plus tristes. On a dû annuler les Vêpes de Cozzalani, prévues au théâtre de Poissy par Emiliano González Toro et Gemelli. On se faisait vraiment une joie de les accueillir, parce qu'en plus, le Festival Baroque de Pontoise faisait partie des initiateurs de ce projet merveilleux, ce disque dont on a beaucoup parlé et puis que je recommande à tout le monde. Mais voilà, la pandémie, on a décidé autrement et on travaille à une reprogrammation sur la saison prochaine.
Et à une reprise des concerts, Pascal Bertin, le 5 février prochain, on croise très fort les doigts pour le festival, ce sera avec l'ensemble Faenza. On va écouter, comme vous nous l'annonciez, un extrait du concert donné par Orpheus 21 le 17 octobre dernier, que vous pourrez, chers auditeurs, retrouver et réécouter, revoir en intégralité, notamment sur la page Facebook du Festival Baroque de Pontoise. En voici un extrait ce matin. Merci beaucoup, Pascal Bertin, d'avoir été des nôtres. Et je rappelle la création de cette page Facebook, La Culture Souffre, avec le U entre parenthèses sur Facebook. Allez vous inscrire, chers auditeurs. Merci beaucoup, Pascal Bertin.
Merci, Saskia.
Merveilleuse Waed Bouassoun, accompagnée par l'ensemble Orpheus 21 de Jordi Savall, ici pour cet hymne à la Vierge en arabe, le croisement des cultures, extrait de ce concert donné dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise que nous offrait ce matin Pascal Bertin. Et un mot ce matin sur ce MOOC, comprenez, cours en ligne que vous propose l'ensemble Correspondance. voyage musical dans la France du XVIIe siècle. Alors, si vous aimez la musique baroque française, vous pouvez désormais vous inscrire sur le site edx.org pour suivre gratuitement cette excellente formation concoctée par l'ensemble Correspondance, le Centre culturel de rencontres d'Ambronay, Sorbonne Université et le Musée du Louvre. Ce sont 3 heures de vidéos, d'interviews de spécialistes, de musique filmée, le tout divisé en différents épisodes. Ce siècle riche pour la musique française vous est expliqué à travers les lieux où elle était jouée, les cathédrales, les abbayes, les théâtres, les résidences royales, mais aussi les lieux éphémères. Je suis très très fière de faire partie de ce projet, parce que je co-présente en effet ce MOOC avec le chef Sébastien Dossé. Je peux donc vous témoigner directement de l'extraordinaire travail qui a été effectué par toute l'équipe. Le résultat est vraiment ambitieux et réussi. Le début de la formation est programmé pour février, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur edx.org. Le MOOC est intitulé « Voyage musical dans la France du XVIIe siècle ». C'est gratuit. Allez, vous apprendrez plein de choses. D'ailleurs, pour fêter ça, je vous offre ce matin le disque « Les plaisirs du Louvre » de l'ensemble Correspondance. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous laissez vos coordonnées et la réponse à la question qui va suivre. Vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres. Alors ce matin, je vous demande de deviner le nom du site sur lequel vous inscrire pour suivre la formation edx.org ou alors edx.org. Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Voyage musical dans la France du XVIIe siècle, c'est le titre de cette formation en ligne que vous propose l'ensemble Correspondance, qu'on écoutait ici, dirigé par Sébastien Dossé, dans un extrait de ce disque Plaisir du Louvre, à remporter ce matin. Pour cela, il faut deviner l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire pour suivre cette formation gratuite à partir du mois de février, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, hein, je vous le rappelle, edx.org ou edx.org. Vous êtes déjà nombreux à participer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur francemusique.fr pour tenter votre chance. Restez bien avec nous pour la suite, dans un instant, la chronique de Marc-Olivier Dupin.
francemusique.fr et le Centre de musique baroque de Versailles présentent l'ex-podcast « Musique et musiciens à la Chapelle Royale ». Découvrez toute l'histoire de la Chapelle Royale de Versailles et de ses musiciens comme vous ne l'avez jamais entendu. Une expérience sonore et visuelle de 6 épisodes racontée par Suzanne Gervais. La Lande le Grand Maître, le concours de 1683. En partenariat avec le Château de Versailles. Une ex-podcast à retrouver sur francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
France Musique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, il est 8h.
Et c'est l'heure d'accueillir Marc-Olivier Dupin pour sa chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Alors Noël est évidemment un moment privilégié pour chanter. Que nous proposez-vous aujourd'hui?
Plein de répertoires différents. Les œuvres dédiées à cette fête vont de la comptine la plus enfantine et la plus simple aux monuments polyphoniques les plus sophistiqués. Retrouvons un classique dans la version pour chœur du Stairwell Carolers d'Ottawa.
Version d'un chant français interprété par ce chœur canadien avec une pointe d'accent délicieux, Marc-Olivier.
Oui, je n'ai pas trouvé de chœur belge pour vous, Saskia.
Je peux imaginer.
Mais ces chants de Noël circulent dans le monde entier dans des versions aussi variées que singulières. Ce sont de véritables tubes. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à vous faire entendre un extrait de Petit Papa Noël par Mireille Mathieu et Tino Rossi. C'est du lourd.
Ça, c'est même mieux qu'une version belge, Marc-Olivier, je vous pardonne. Merci beaucoup.
Oui, avec un seul de ces titres, on pourrait faire le tour du monde. On en trouve des versions par le chœur de l'Armée Rouge ou en gospel. D'ailleurs, il est impressionnant de voir à quel point les compilations de chants de Noël sont commerciales. En tout cas, peut-être pas en France, mais dans beaucoup d'endroits.
Et dans le choral, le répertoire choral plus classique?
Alors, il y a beaucoup de merveilles, telles que l'oratorio de Noël de Bach, qui est un monument extraordinaire, magnifique. Il y a une très belle chose qui est les Ceremony of Carols de Britten.
J'adore ça.
Et aussi une très belle œuvre de facture classique, produite par John Williams pour Harry Potter, c'est les Carols of the Bells.
Et pour en revenir à des musiques plus populaires et pour rester en Angleterre, Marc-Olivier, vous nous proposez autre chose.
Une version extraordinaire de Jingle Bells par les King's Singers. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Ding, 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 ding. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ding, making spirits climb. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. Je vous souhaite un petit peu en avance puisqu'on ne se parlera que le 26. Un joyeux Noël.
Eh bien, joyeux Noël à vous aussi.
Et à très bientôt sur France Musique. Belle semaine à vous.
Bonne semaine à vous, Saskia.
Just get a bobtail bay, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, we'll take the lead. Come with us and hear those jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open ching, 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 open sleigh. Hey! Thank you.
Romance en la majeure, romance à six mains composée par Sergueï Rachmaninov pour ses trois cousines, romance dont il va même utiliser l'introduction quelques années plus tard pour le mouvement lent de son deuxième concerto pour piano, vous l'avez peut-être reconnu. Ici on écoutait Alexandre Tarot, Alexander Manikov et Alexander Mazar sur ce disque consacré au compositeur qu'Alexandre Tarot a fait paraître il y a quelques années chez Erato. France Musique, il est 8h09.
Thank you.
Kent Naganou à la direction de l'orchestre de l'Opéra de Lyon, la marche hongroise de la damnation de Faust d'Hector Berlioz ici pour vous réveiller ce matin. Il est 8h14. Ce matin, dans la séquence reportage, c'est à Montpellier que nous nous rendons. L'opéra aurait dû présenter, à partir de demain, le nouveau projet du Centre français de promotion lyrique dont il assure la coproduction, Le Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach. Mais en raison de la fermeture des lieux de spectacle, les représentations ont été annulées. La générale a cependant été maintenue. Sophia Anastasio y a assisté pour nous.
Attention, hein. C'est ouvert, hein. Pas glisser.
Sur le plateau, tout est prêt. Une demi-lune est installée au milieu de la scène. Dans les coulisses, les chanteurs s'échauffent. On règle les derniers détails sur les costumes aux teintes argentées. La générale du Voyage dans la Lune va bien avoir lieu dans quelques instants, mais c'est tout. Les dates prévues à Montpellier ont toutes été annulées pour cette production. On écoute Valérie Chevalier, directrice de l'institution.
Bah évidemment, on a été tous effondrés. On s'est posé la question d'arrêter net les répétitions ou pas. Et comme c'est une grosse coproduction et que le spectacle joue à Nancy au mois de janvier, puisque ça, on y croit vraiment, on s'est dit qu'on mènerait les répétitions jusqu'au bout pour que ce soit un produit fini, abouti. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de déception. C'est un petit peu difficile, ouais.
Porté par le Centre français de promotion lyrique, qui réunit de nombreuses maisons d'opéra, le spectacle a été répété et fabriqué à Montpellier. Olivier Fredge en a conçu la mise en scène, lui aussi fait part de sa déception.
L'apaisement se tient du fait qu'on sait qu'on va rejouer, et qu'on va rejouer pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ça évidemment met un peu du môme au cœur. Après, on ne peut pas se cacher que pour une maison qui a mis tant d'efforts à construire un spectacle, ne pas en voir l'aboutissement, et surtout pour une comédie, ne pas avoir la réaction du public, c'est décevant, c'est frustrant.
La tournée qui attend cette production va tout de même permettre au spectacle et à sa mise en scène d'avoir plusieurs vies, nous explique Olivier Fredge.
Chaque maison nécessite à ce que le spectacle soit ajusté à cette maison, à son fonctionnement, à ses capacités, à aussi ses envies. La base est là, elle est très riche, elle est magnifique, j'en suis très heureux, et je pense qu'elle mérite à ce qu'on ait un travail un petit peu d'orfèvre à chacun des endroits, dans la mesure du possible. Donc chaque première aura sa valeur particulière, ce qui nous donne plein de premières à venir. Le voyage sera jamais le même.
Sur la scène de ce voyage, on retrouve des influences de Méliès, Chaplin ou encore Tati. Marie Perbost interprète le prince Caprice, petit garçon mal élevé qui veut à tout prix aller sur la lune. La soprano Marie Perbost voulait quant à elle à tout prix interpréter ce rôle de mezzo-soprano.
Mais je sais pas, je crois que c'était un peu une lubie. Alors notamment, ma maman était chanteuse lyrique et elle m'a légué toutes ses partitions. Et alors, il n'y en avait pas une quantité invraisemblable, mais il y en avait. Et parmi elles, il y avait cette valse de Caprice. Et c'est vrai que je ne sais pas, je ne crois pas vraiment au signe, mais là, je me suis laissé mon instinct parler. Je ne sais pas, un truc comme ça.
Bon, enfin, sérieusement, mon enfant, que prétends-tu faire? Voyager encore? Tu n'as quasiment pas mué que tu as déjà tout vu.
C'est vrai. Et si je pouvais aller plus loin encore?
Qu'est-ce qu'il fait? Il avance.
La lune.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la lune. La lune. Tu crois sans doute que je vais te la donner, la lune?
Eh bien, pourquoi pas?
Mais ça va.
Pour obtenir ce rôle, Marie Perbost a donc participé à la grande audition organisée par le Centre français de promotion lyrique. Structure présidée par Raymond Dufaux, elle a pour objectif la découverte et l'insertion professionnelle de jeunes artistes, notamment en montant des productions comme celle-ci. Et ce centre accompagne Marie Perbost depuis le début de sa carrière.
J'ai
j'étais en deuxième année au conservatoire et j'ai eu l'orgueil de présenter un petit concours et j'ai eu un prix décerné par Monsieur Dufaux et depuis ce jour, il a toujours été là et c'est vrai que j'ai un faible pour le répertoire français, j'ai un faible pour le répertoire où le théâtre est très important et où le texte a beaucoup de saveur et je suis très heureuse que ce genre de structure existe et notamment ait autant d'ambition de soutenir des jeunes artistes.
Ce voyage dans la Lune sera donc à retrouver dans les différentes salles réunies par le Centre, Nancy, Tours, Reims ou encore Avignon, avant, l'espère Valérie Chevalier, de pouvoir finalement être jouée à Montpellier.
Oh, je pense qu'on ne pourrait pas ne pas la donner. Non, franchement, on a tellement travaillé, les ateliers ont tellement travaillé dessus, la technique, on a tout adapté, la production. Non, ce serait au-delà de la frustration, ça serait terrible. Hein. Non, on va réussir à la jouer, mais ce ne sera pas tout de suite. Mais ce qui serait joli symboliquement, c'est que nous puissions finir la tournée.
Se passe comme prévu, ce sera donc en 2022-2023, c'est incroyable, ça paraît si loin, commente Valérie Chevalier. D'ici là, l'Opéra de Montpellier proposera à partir du 20 janvier 2021 Falstaff, spectacle qui avait été arrêté lui aussi au moment de sa générale en mars dernier, avec le premier confinement.
Merci beaucoup Sophia, et la première de ce voyage en la Lune aura lieu, on l'espère, le 20 janvier prochain à Nancy, à l'Opéra National de Lorraine. Vous pouvez déjà, chers auditeurs, prendre vos places, et puis un disque verra par la suite le jour, puisque parmi les coproducteurs du spectacle se trouve le Palazzetto Brusane, centre de musique romantique française, qui a édité une nouvelle partition correspondant à la première version de cet ouvrage, voyage qui sera donc enregistré par le chœur et l'orchestre national Montpellier-Occitanie en septembre 2021. France Musique, il est 8h20.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
somptueux Benjamin Bernheim ici pour cet air extrait de Werther de Jules Massenet. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps? Magnifique Benjamin Bernheim qui fait partie de ces immenses voix invitées à la Scala 2000 ans pour ce gala d'ouverture de saison qui sera diffusé demain à 17h20 sur Arte. Prestigieux gala qui réunit les plus grandes voix de la scène lyrique internationale. Il y a donc, on l'entendait, hein, Benjamin Bernheim, mais aussi Sonia Yoncheva, Roberto Alagna, Marina Rebecca, Piotr Bechala ou encore Lisette Oropesa de l'opéra français, de l'opéra italien bien sûr au cours de cette soirée. Mais il y a aussi de la danse, une soirée exceptionnelle dirigée par maestro Riccardo Chailly et qui dirige les chœurs et orchestres de la Scala. C'est donc une très belle et grande soirée à découvrir sur Arte demain à 17h20. Et juste avant d'accueillir notre invité, je vous fais découvrir une autre nouveauté ce matin, le nouveau disque de l'ensemble In Alto et de Lambert Colson, disque construit autour du répertoire pour cornet à bouquin des 16e et 17e siècles, disque qui regroupe des œuvres inspirées par deux célèbres cornettistes virtuoses de l'époque. On y découvre des petits bijoux comme cette sonate signée Massimiliano Neri.
Thank you.
Lambert, Colson et son ensemble In Alto ici pour cette sonata Ottava 6 Massimiliano Neri pour le compositeur. Un extrait de ce disque paru chez Richard Carr, son titre Cavalieri Imperiali.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Il est 8h30 sur France Musique, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonjour Olivier Michel.
Bonjour Katia.
Saskia, c'est encore mieux.
Saskia,
je pense que
pardon.
Vous êtes... Il est tôt. Je vous pardonne, Olivier Michel. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la Pop Incubateur Artistique et Citoyen. C'est une péniche, c'est un lieu de spectacle. Comment le présenteriez-vous, Olivier Michel, aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore ?
Alors, c'est avant que cela devienne la Pop, le lieu était la péniche opéra. Donc, il y a un lien organique avec la musique. Et assez vite, en fait, le projet s'est orienté sur une dimension d'incubation artistique et citoyenne, en ce sens que nous accompagnons des projets artistiques portés par des équipes artistiques très pluridisciplinaires, mais dont le projet, en fait, questionne notre rapport au son et à la musique à travers des questions qui peuvent être d'ordre anthropologique, psychologique, scientifique, historique, etc. Et donc, c'est vraiment un lieu de création au sens où le public qui se rend sur la péniche découvre les objets artistiques pour la première fois. Donc, c'est l'un des très rares lieux franciliens à ne présenter que des créations, donc que des premières représentations. Et les équipes artistiques que l'on accompagne sont paritaires, la plupart émergentes. Et les projets sont donc présentés dans le lieu avant ensuite d'être diffusés dans des réseaux plus classiques comme celui des scènes nationales ou des centres dramatiques nationaux, des maisons d'opéra, des festivals, des centres dramatiques, etc., etc.
Et c'est vrai que c'est un lieu où on peut découvrir, vous l'évoquiez rapidement Olivier Michel, de jeunes artistes émergents. On est vraiment dans la découverte.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, chaque année, nous organisons des journées de repérage artistique, l'une avec le Théâtre de Vanves et Danse, qui consiste à effectivement proposer un appel à candidature au début du printemps. Et on rassemble près de 300 projets de spectacles qui s'emparent du matériau musical ou sonore vraiment au cœur de la conception du projet. Et on sélectionne une dizaine de projets qu'on présente ensuite à des professionnels. Enfin, les équipes artistiques qui sont sélectionnées les présentent à des professionnels qui sont réunis dans la péniche. Et il y a une seconde journée qu'on organise avec le Théâtre de l'Aquarium, le CDN de Lorient, le Nouveau Théâtre de Montreuil et une structure flamande qui s'appelle l'ODE et qui a lieu, elle, en janvier. Donc là, on est en train de réfléchir à son organisation puisque... Le mois de janvier est particulièrement entravé.
Et incertain, encore à ce stade, effectivement.
Et très incertain.
Olivier Michel, parmi tous ces créateurs que vous avez l'occasion, avec lesquels vous avez l'occasion d'échanger, parmi tous ces projets de création qui vous sont proposés, nos auditeurs commencent à le savoir, cette question qui nous intéresse le samedi matin ici, dans cette matinale, ce sont ces questions de développement durable, d'écologie dans le secteur culturel. Quelle est la place pour ces questions-là dans les projets, parmi les projets qui vous sont proposés? Est-ce qu'elle est importante, inexistante? Est-ce qu'elle se développe?
Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que les équipes artistiques sont dans leur pratique, j'allais dire, de production et de création et de diffusion, parce que la diffusion est une place centrale dans le spectacle vivant, sont confrontées à ces questions d'impact environnemental et donc réfléchissent fortement à le réduire. Ça, c'est la première chose, disons la vision du métier, en fait. L'autre chose qui est extrêmement importante et que le public ne perçoit pas nécessairement, mais nous, on le ressent et l'on le voit, puisqu'on est vraiment, réceptacle des projets de création qui adviennent, c'est qu'une grande majorité des sujets des spectacles que les artistes portent aujourd'hui questionnent très clairement le rapport à la nature, le lien que l'on a, par exemple, sur les dépenses et les impacts que l'humanité l'impact que l'humanité porte sur les systèmes naturels, les écosystèmes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui traverse une grande partie des spectacles qui sont conçus aujourd'hui par les équipes artistiques.
Vous parlez de grande majorité. Vous diriez quel pourcentage ?
Je dirais 50%.
Ah oui, tout de même.
Ce qui est conséquent.
Depuis combien de temps vous constatez ce pourcentage important ?
Je dirais que ça monte en puissance depuis 2 ans, mais après ce sont des spectacles qui ne sont pas créés, les spectacles que je reçois, enfin que j'étudie à travers ces journées de repérage artistique, c'est des spectacles qui vont être créés dans une année, 2 ans, donc il y a un petit retard à l'allumage, d'autant plus que là nous on traverse une période où on ne peut pas créer. Donc comme il y a un décalage, je dirais que c'est des spectacles qui vont être présentés au public dans une année, 2 années. Mais il y a une forte montée en puissance sur le sujet. Ça, c'est... Et donc, c'est très important parce que la création artistique bouleverse, enfin, une de ses fonctions, c'est de modifier nos représentations et de bouleverser nos valeurs. Et donc, je pense qu'elle va avoir un poids conséquent dans les années qui viennent. Et ça, c'est ce que Bruno Latour évoquait il y a quelques années. C'était la nécessité qu'il y ait une approche sensible du sujet pour que les citoyennes et les citoyens puissent s'en emparer, et les politiques surtout, puissent s'en emparer fortement et réellement.
On espère évidemment que la réouverture des lieux de concerts, de spectacles sera un fait dans les mois qui viennent. Je pense notamment à la réouverture de la Pop en mars prochain avec justement un spectacle Olivier Michel qui s'intéresse à cette question de l'écologie in situ. Vous nous en dites quelques mots ?
Alors oui, c'est un artiste roumain qui est installé à Berlin et donc c'est un projet qui a été déjà présenté mais dans une version très longue à Bruxelles, je crois l'année dernière, et qui porte sur le fait qu'il y a donc un certain nombre d'oiseaux, de différentes espèces d'oiseaux qui disparaissent ou qui ont disparu. Et c'est une sorte de performance requiem sur la disparition de ces oiseaux, c'est-à-dire que les performeurs vont incarner ces oiseaux et vont raconter aux spectatrices et spectateurs ce qui caractérisait ces oiseaux, ces sortes de portraits mortuaires d'oiseaux qui disparaissent. Un peu à l'image de ce que Castellucci avait fait avec les Requiem de Mozart l'été dernier
au Festival d'Aix-en-Provence. Pour ceux qui l'ont vu, effectivement, Olivier Michel, il est 8h37, on va écouter votre choix musical. Eh bien, c'est du Verdi, on écoute.
Thank you.
Le cœur des esclaves hébreux, chant de lutte, ici extrait de Nabucco de Verdi, interprété par les chœurs et orchestres du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Riccardo Muti. Eh bien, c'est le choix musical de notre invité ce matin, Olivier Michel, directeur de la Pop, incubateur artistique et citoyen. Olivier Michel, vous nous en dites quelques mots.
Sur ce choix musical?
Absolument.
Pardon. Alors, oui, il n'est pas anodin en fait, parce que c'est une œuvre musicale qui a été qu'on a proposé à deux équipes artistiques de performer à l'automne dans le cadre d'un cycle de performance dont le sujet était les hymnes musicaux, thème qu'on a choisi
décliné
au printemps dernier au moment du confinement. Et donc on a identifié 5 musiques qui ont cette fonction d'hymne, à savoir une sorte de musique qui ont des super pouvoirs, à savoir de rassembler les auditrices et les auditeurs au moment où elles sont jouées, parce que ce sont des musiques plutôt chorales, plutôt entraînantes, et qui souvent s'appuient sur un texte qui renvoie à la notion de fraternité, d'humanité. Et donc le principe de ce cycle, c'est vraiment d'avoir deux regards artistiques différents à chaque fois sur une même musique, mais deux regards qui ne sont pas nécessairement ceux de musiciens, mais ça peut être des chorégraphes, des artistes visuels, des autrices, etc. etc. Et cette musique, a une résonance particulière, d'une part parce qu'elle a été écrite au moment où Verdi était traversait un moment de grande dépression, il avait perdu ses deux enfants et sa femme. Et donc c'est en écrivant cette musique qu'il a retrouvé le goût à la vie. Donc c'est presque une musique performative. Et c'est surtout une musique de résistance, parce qu'au moment où elle a été jouée, les Italiens l'ont ressenti comme une musique rentrer en résistance face à ce moment-là. Oui, par rapport au fait qu'ils étaient sous le joug de l'Empire austro-hongrois, je crois, à l'époque. Et c'est vraiment une musique, selon moi, qui effectivement appelle à s'unir, à se rassembler pour résister à une forme d'oppression. Bon, c'est le cœur des esclaves, donc ça apparaît évident. Mais je trouve que cette fonction-là est toujours d'actualité. Elle a d'ailleurs été chantée par les spectateurs en 91, au moment où Berlusconi était dans le théâtre de Rome et que Riccardo Muti dirigeait cette musique. Et les Italiens ont réclamé un bis pour...
Au milieu de la représentation de l'opéra.
Ouais, c'est ça. Exactement. Pour réclamer le fait, enfin, pour signifier au président Berlusconi que la culture était extrêmement menacée par une baisse de soutien, de forme de subvention. Et cette musique, on la retrouve aussi, c'était il y a presque un an, elle a été chantée par le chœur de Radio France pour manifester un refus d'une réforme à laquelle ils étaient confrontés. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, une musique qui emporte l'adhésion et qui fait qu'on a envie de chanter son refus, comme ça pourrait être le cas devant, par exemple, Matignon, pour ce qui concerne le secteur culturel, qui décidément ne supporte pas cette situation dans laquelle il se trouve d'injustice par rapport aux autres secteurs plus économiques, plus rentables. C'est, je trouve, une musique très parlante.
Et tout à fait à propos de l'actualité, comme vous le dites, Olivier Michel, et revenons-en aussi à la pop, à cette péniche, oui, cet accueil de performance, de création, qui a sa propre charte éco-responsable, et ça j'aimerais qu'on en parle, qui est à la fois à destination de l'équipe. Alors je pense que l'équipe était déjà convaincue, donc dans le petit geste du quotidien, plusieurs choses ont été mises en place, mais j'aimerais qu'on parle plus précisément de cette charte à destination des artistes. Ils sont contraints en quelque sorte de la respecter lorsqu'ils sont engagés par la pop.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on les accueille en résidence ou quand on les soutient en production, par exemple, bref, quand on les accompagne et qu'ils viennent dans le lieu, ils doivent appliquer cette charte puisqu'elle est en annexe des contrats que nous leur faisons signer, donc des conventions et contrats. Et donc c'est une charte qui rassemble un certain nombre de pratiques, comme le fait, bon c'est tout simple, hein, mais si l'on doit se rendre, comme Sergio Matisse doit se rendre à la pop en mars, en venant de Berlin, je pense que ça fait, alors si ça fait plus de 1000 km, il peut prendre l'avion, mais il est fortement invité à prendre le train.
Et je pense que même s'il est à moins de 1000 km et qu'il prend l'avion, eh bien vous ne remboursez tout simplement pas son trajet.
C'est ça.
Donc c'est assez coercitif, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas tellement le choix aujourd'hui de passer par ce type de méthode, parce que sinon, le secteur va rencontrer d'autres difficultés, peut-être plus grandes encore que celles qu'elle traverse aujourd'hui.
Il y a d'autres recommandations qui sont décrites sur cette charte éco-responsable, comme voyager avec sa gourde, utiliser les fontaines à eau, adapter les horaires des représentations pour permettre à chacun de rentrer sans difficulté les soirs en transport en commun. Il y a énormément d'autres suggestions sur cette charte éco-responsable, je le disais, à la fois à destination des artistes, mais aussi de l'équipe de la pop, une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise mise en place déjà il y a aussi quelques temps au sein de la pop. Olivier Michel, il est déjà 8h47, le temps passe trop vite, on va bien écoutez votre deuxième choix musical pour se quitter. Alors ça, je ne connaissais pas. El Niño, je connais. Mais Joa et Lieutenant Nicholson, vous nous le présentez?
Je vous le dirai après. maintenant. Alors c'est très simple. C'est j'ai découvert cette musique avec ma fille, qui l'a chantée dans sa chorale au collège dans lequel elle se forme actuellement. Et c'est une musique qui parle en l'occurrence de façon assez joyeuse de la situation environnementale que l'on subit. Et je trouve que le fait de l'avoir apprise en chorale au collège et de me l'avoir fait découvrir, c'est, je trouve,
de l'espoir pour l'avenir.
La génération qui vient, voilà, exactement, que la génération qui vient est extrêmement sensible à ces questions.
Merci beaucoup Olivier Michel et puis à très bientôt. Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
On va parler musique de film ce matin.
Ouais, on va parler d'un compositeur que j'écoute depuis très longtemps, qui a façonné vraiment tout ce que j'aime en musique symphonique et façonné beaucoup une grande page de l'histoire du cinéma. Et il est vraiment sous-estimé. C'est Jerry Fielding. Agréable, hein.
On imagine tout de suite une partie de cache-cache entre un méchant et un gentil qui se poursuivent dans une ville déserte la nuit. Comme ça,
ça ressemble à ça. Ça, c'est la BO du film The Gauntlet qui date de 77. C'est un film de Clint Eastwood avec sa femme Sandra Locke. Et c'est Clint Eastwood qui doit escorter Sandra Locke au tribunal et qui se fait poursuivre par pas mal de méchants.
Voilà. J'étais pas long.
Et alors là, ça, c'est moi j'appelle ça des strikes, des coups vraiment, des effets de percussion et de cuivre. Et c'est un spécialiste, Jerry Fielding. Il fait des scores très brutaux, comme ça, vraiment sauvages. Il est né en 22, il est mort en 80, 57 ans. Il s'appelait Joshua Itzhak Feldman. Et il a dû changer de nom parce qu'il était blacklisté comme communiste parmi les compositeurs hollywoodiens. Il faisait beaucoup de jazz et de musique symphonique, ça s'appelle du third stream, vous le savez dans cette histoire. Et donc il avait des musiciens noirs américains et évidemment ça plaisait pas que ces musiciens soient syndiqués à des gens comme Hoover, au FBI, etc. Donc Fielding a été blacklisté, il a pas bossé pendant une dizaine d'années, il s'est remis à bosser au début des années 60 grâce à Otto Preminger et après il a rencontré Sam Peckinpah. Voilà, Sam Peckinpah, qui fait ses westerns ultra violents, la horde sauvage, qui a fait les chiens de paille aussi avec Dustin Hoffman, cette espèce de jeune mathématicien dont la femme se fait violer et qui déploie de la violence ultime pour se défendre. Donc c'est des musiques de films très très brutales, mais il y a vraiment un savoir-faire et puis de l'émotion et puis des super mélodies. On va écouter ce que je viens de vous faire écouter. Ça, on vient de l'écouter, mais écoutez ça. Sol, sol, ré, mi, ré, la, 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 ré, la, la, ré, ré, ré. Sol, ré, mi, ré, la, fa, fa, do, si, la, la, si, si, mi. Voilà, je vous fais écouter parce que ça passe, ce genre de choses, on n'écoute pas vraiment. Mais en fait, c'est des effets, mais magnifiques. Moi, je trouve ça hyper beau et j'adore cette musique, j'adore toutes les musiques de Jerry Goldsmith. On va écouter un autre passage où il mélange le jazz et des choses funky et puis vraiment de l'avant-garde. C'est encore dans The Gauntlet. C'est un moment très sauvage. On écoute. Ces arrangements de cordes. Dans quel film on a ce genre de choses là maintenant, aujourd'hui ?
C'est une bonne question.
C'est vraiment une époque en fait, ce genre de score. Hein. Mais il avait beaucoup de liberté. Alors lui, vraiment, il dit que si on développe une bonne relation avec un réalisateur, on peut avoir des musiques de films uniques comme ça. Et il a développé cette relation avec Clint Eastwood, avec Sam Peckinpah et aussi avec Michael Winner. Donc moi, je vous dis, écoutez toutes les BO de Jerry Filling, elles sont toutes fantastiques. Très influencées par Bernard Herrmann aussi, par Stravinsky et puis par le jazz. Alors, il y a un film de Sam Peckinpah qui s'appelle Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, j'adore ce film. C'est un western, un anti-western, on va dire, très surréaliste, où il y a un pianiste de jazz qui est tueur à gages et qui doit retrouver, qui doit apporter la tête d'Alfredo Garcia à un grand méchant. Et il est amoureux, il y a une fille avec qui il est un peu en cavale et il y a une scène qui se passe au pied d'un arbre. Donc la même personne écrit ça, écoutez l'ambiguïté dans les cordes pour moi. On ne sait pas où se poser en fait. C'est comme les sentiments du héros quoi, qui ne sait pas où il est, il est complètement perdu. Il fait des plans de mariage avec cette fille, mais il sait très bien qu'ils se marieront pas en fait. J'aimerais bien écouter aussi un des thèmes de Alfredo Garcia, c'est le quatrième extrait, Félix, c'est Killer's Rhapsody. C'est le Mexique qui rencontre les valses de Vienne, on va dire. Et Jerry Filling, donc tout est bien. Je vous dis, il est mort en 80, donc il n'a pas eu le temps de faire des choses mauvaises dans les années 80. Il a été nommé aux Oscars en 76 avec Josie Wales, la musique de Josie Wales, Hors la loi, The Outlaw, Josie Wales, de Clint Eastwood, qui est pareil, une musique de film fantastique. La même année, il y avait nommé Jerry Goldsmith pour La Malédiction, Lalo Schifrin pour Voyage of the Damned, Bernard Herrmann pour Vertigo, Bernard Herrmann pour Taxi Driver et donc Jerry Filling pour Josie Wales. C'était vraiment l'année où il y a tous les meilleurs, quoi, vraiment. Moi, je vous conseille vraiment d'écouter aussi ce qu'il a fait pour les Pigeon Pie et pour la Horde Sauvage aussi. Et puis, enfin, non, mais tout est bien. The Enforcer aussi, c'est un Dirty Harry, c'est Clint Eastwood aussi, l'inspecteur Harry Callahan. Voilà, on va peut-être se quitter avec un dernier extrait où vraiment il pastiche. Enfin, c'est pas qu'il pastiche, c'est qu'il cite ce qu'on avait écouté il y a pas aussi longtemps, Sketches of Spain, de Gil Evans et Miles Davis. Et ça, c'est une scène du film The Gauntlet, l'épreuve de force, donc. We'll be right back. Jerry Fielding, F-I-E-L-D-I-N-G.
Merci beaucoup Christophe pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr, qu'on podcast. À la semaine prochaine Christophe.
À la semaine prochaine.
Et bonjour Gabriel Olivier Aguillon.
Bonjour Saskia Deville.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous vous préparez pour les fêtes?
Mais absolument, on sera en direct le 26 pour être en fête avec les auditeurs.
Exactement,
aussi.
Qui peuvent chaque samedi partager leurs coups de cœur musicaux avec vous. 2 heures pour se faire plaisir, chers auditeurs, restez
exactement.
Bien branchés. Alors juste avant de vous retrouver pour France Musique est à vous, le résultat de notre concours, Gabriel, on va jouer ensemble.
Oui.
Il faut deviner le nom du site sur lequel s'inscrire pour suivre ce merveilleux MOOC proposé par l'ensemble Correspondance Voyage Musical à travers le 17e siècle en France, sedx.org, edx.org ou alors edx.org. Gabrielle ?
Alors, je ne sais pas.
Vous n'êtes pas encore inscrite ?
Non. Vous allez tout m'expliquer, Saskia.
Oh, ça, je vous le promets. Vous allez voir, ça va vous plaire, à mon avis. Eh bien, la réponse était bien évidemment edx.org. Les gagnants seront contactés, recevront ce merveilleux disque Les Plaisirs du Louvre de l'ensemble Correspondance par courrier. Merci à toute l'équipe. Merci à Marie Ferdinand, Félix Levaché, Xavier Atto et Maïwenn Lejean. Et puis, merci aussi à Taïsia qui était avec nous cette semaine. Gabriel, c'est à vous.
Merci, Saskia. Bon week-end.
À vous aussi.
À réécouter sur francemusique.fr.